Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie. Et on va évoquer avec elle les titres à paraître à la une de cette nouvelle édition. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence avec les manifs du 1er mai. Dans le Gard et dans l'Hérault, pas moins de 14 manifestations seront organisées.
Oui, tout à fait. Donc c'est mercredi prochain, le 1er mai. Donc, on a dans le Gard et dans l'Hérault un nombre important de manifestations, que ce soit dans les grandes villes comme Nîmes ou Montpellier, mmh. ou des communes plus petites, moyennes et petites. C'est le signe de la vitalité du mouvement syndical. Et ça se passe ce 1er mai dans un contexte de crise économique et sociale, avec une exigence pour les syndicalistes que nous interrogeons, c'est de vivre bien et donc qu'il y ait un meilleur partage des richesses.
On peut à lire aussi le groupe pharmaceutique Sanofi qui réalise pourtant des profits, supprime des emplois et je rajouterai même qui est pas mal subventionné par l'État. Le site de Montpellier est concerné.
Oui, tout à fait. Donc il y a eu l'annonce d'un cinquième plan, entre guillemets, social, mais plan de suppression d'emplois, de licenciement. Mmh. C'est le cinquième en 15 ans. Et il y a énormément d'emplois qui sont supprimés au niveau national. C'est 330 emplois en France, de nouveau, dont 26 à Montpellier, dans le secteur de l'oncologie, c'est-à-dire de la recherche, de la lutte contre le cancer, ce qui est... choquant. On a donc interrogé le personnel qui sont évidemment abasourdis par cette nouvelle saignée. Et voilà, surtout que Sanofi a un chiffre d'affaires qui se chiffre en milliards. Mmh. Rappelons que Sanofi n'a pas été capable aussi de trouver un vaccin parce que depuis en moins de 15 ans, la recherche a été saignée de 40% de ses effectifs. Mmh. Donc il n'y a pas de secret. Si on veut avancer dans la recherche, il ne faut pas supprimer les emplois dans la recherche.
À Montpellier, le village de transition a réussi son pari qui était de proposer un toit à des familles. Et la Marseillaise revient sur ce projet.
Oui, tout à fait. Donc le 24 avril, il y a eu la fermeture du village de transition, alors qui permet... ça s'inscrit dans la lutte contre les bidonvilles, mais surtout les conditions de vie des personnes dans les bidonvilles. Mmh. Donc ce village de transition, il a abrité 165 personnes en 2 ans. Il y en a 105 sur ces 165 qui ont été relogées dans un logement pérenne. Mmh. Et évidemment, c'est la fermeture du lieu, mais la bataille contre les bidonvilles n'est pas terminée, puisque l'État évalue à peu près même un peu plus de 600 personnes qui sont encore dans ces conditions indignes de vie. D'accord. Et donc c'est une formule qui fonctionne et qui va certainement avoir aussi un prolongement.
Et pour finir de la culture, Françoise, avec 7 qui organise le premier festival de théâtre amateur. Et quand on dit théâtre amateur, il n'y a d'amateur que le mot, puisque ce sont généralement de très bonnes troupes de théâtre.
Oui. Tout à fait. Bien, amateur, c'est amoureux aussi.
Et oui, c'est ça.
Amoureux du théâtre. Alors, sur le bassin de Thaux, la ville de Sète a dénombré une vingtaine de troupes amateurs.
D'accord.
Hein, donc, il y a une vraie vitalité. Et une fois de plus, à la cité de Brassens, de Paul Valéry, mais aussi de Jean Villard, démontre son volontarisme culturel. Bon, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir du 3 mai au 5 mai, donc, ce festival. Mmh. C'est un festival complètement gratuit pour le public et donc on donne tous les détails et la philosophie un petit peu qui a présidé à l'organisation de ce festival de théâtre amateur dans les colonnes du journal dès ce vendredi.
Allez, à la une de la Marseillaise, chers auditeurs, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, cher François, cette une de la Marseillaise avec les manifs du 1er mai. Ça sera, on parlera notamment du Gard et de l'Hérault avec pas moins de 14 manifestations qui seront organisées.
Oui, alors on donne évidemment dans le journal le détail, le lieu, l'heure des départs de manifestations. Il y en a 14, donc il y a des grandes villes. Il y a donc évidemment Montpellier, il y a Nîmes, mais il y a aussi des villes moyennes. On peut parler de Sète, de Béziers, mmh. et puis des petites communes comme le Vigan ou même Ganges.
D'accord.
Donc ça montre la vitalité évidemment du mouvement syndical. Elles sont organisées, ces manifestations du 1er mai, souvent à l'appel d'une intersyndicale. Mmh. Rappelons-nous que c'est pas si vieux que ça. Il y a un an, on était en pleine bataille des retraites. Donc cette bataille, elle n'a pas été perdue par le mouvement social, hein, puisqu'elle était très forte.
Oui.
Le mouvement social, lui, il s'est heurté à l'autoritarisme du gouvernement, qui a fait passer, rappelons-le, en force, avec le 49-3 et sans vote, cette réforme du recul de l'âge légal de départ à 64 ans.
Mmh.
Et donc, c'est encore une grande préoccupation et une grande revendication des syndicalistes que nous interrogeons largement dans la Marseillaise, hein, puisque cette réforme des retraites a des effets délétères sur l'emploi,
oui.
Sur les conditions de vie des retraités aussi, notamment les plus précaires, notamment ceux qui ont des carrières hachées. Il y a cette question des retraites, il y a aussi la question de défendre les services publics, parce que le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs et du public et du privé.
Mmh.
Et donc, on a une cure en ce moment sur les services publics qui est dramatique, une cure d'austérité qui est battue en brèche et dénoncée par tous les syndicats.
Oui.
Là, on enfonce un coin dans aucun syndicat là-dessus. Et ça fait partie, évidemment, des priorités de ce 1er mai 2024.
Mmh.
On a aussi, évidemment, la question de l'assurance chômage.
Et oui, puisque, c'est corrélé avec la réforme des retraites, au final, tout ça.
Complètement. Et puis, le gouvernement vient d'annoncer un nouveau tournevis. Il veut reprendre la main sur l'assurance chômage, qui, normalement, est gérée de façon paritaire entre les syndicats et le patronat.
Et oui, mais ils ne peuvent pas s'entendre, visiblement.
Oui, mais... Rien n'est. Alors le patronat a sa responsabilité, mais l'État lui reprend la main. Pourquoi?
Oui.
Pas pour le bien-être des privés d'emploi, mais pour restreindre encore plus leurs droits.
Et oui.
Sauf que rien n'a démontré jusqu'à présent, aucune étude n'a démontré un lien entre restreindre les droits des demandeurs d'emploi et la création d'emplois. Donc ça, c'est expliqué encore dans nos colonnes. On a aussi, évidemment, parmi les revendications, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Entreprise, parce que si aujourd'hui les femmes et les hommes avaient le même salaire, c'est-à-dire que les femmes, leur salaire était revalorisé au même niveau que celui des hommes en moyenne, on aurait évidemment beaucoup plus de budget et de finances, notamment pour nos caisses de retraite. Et puis, il y a la grande question salariale aussi, puisque les salaires sont au plancher, c'est des variables d'ajustement, et par rapport aux revenus du capital, ils sont en constant recul.
Oui.
Or, aujourd'hui, on a quand même des profits énormes qui sont faits, et le CAC 40 de ce porte absolument bien avec des milliards et des milliards, mais il n'y a pas de partage des richesses et donc ça fait aussi partie de ces revendications qu'on peut résumer en un terme, hein, que reprennent les syndicats, c'est vivre bien pour une vie meilleure, donc se battre pour nos droits des travailleurs. Et puis, on a aussi un regard historique, puisque nous avons un entretien avec Alain Mossière. Alors Alain Mossière, il fait partie de l'Institut d'Histoire Sociale, IHS, de la CGT, et donc c'est un institut, donc comme son nom l'indique, qui travaille sur la mémoire ouvrière et la mémoire du travail, et il rappelle les origines de ce 1er mai. C'est absolument intéressant à lire. Exactement. Et puis aussi, il fait le lien entre les luttes d'hier et les luttes d'aujourd'hui. Alors évidemment, Les coups de boutoir sont très durs pour le monde du travail, mais il estime qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir et qui, pour lui, demain, seront porteuses. Voilà, donc un dossier assez complet dans la Marseillaise, dans la perspective de ce 1er mai.
Nous parlions partage des richesses, le lien est tout fait avec le prochain sujet, puisque le groupe pharmaceutique Sanofi, qui réalise pourtant, comme vous le dites, des profits, de bons profits, supprime des emplois et le site de Montpellier est encore une fois concerné.
Oui, tout à fait. Alors, les salariés de Sanofi, on leur donne régulièrement la parole dans le journal. On évoque aussi la situation de cette entreprise qui est une multinationale.
Hein.
Et donc, malgré ce, il y a quelques jours, la direction de Sanofi a annoncé un cinquième plan, ce qu'ils appellent un plan social, mais il n'y a de social que le nom, même si c'est un euphémisme. C'est en fait un plan de suppression d'emplois. Hein, et c'est le cinquième en 15 ans. Et le site de Montpellier est concerné, puisque 26 emplois vont être supprimés sur un total de 330 qui vont être supprimés partout en France, dont 26, donc à Montpellier. Et c'est dans la recherche oncologique. Donc, oncologique, c'est la recherche de médicaments pour lutter contre le cancer. Donc, on sait tous qu'il a disparu, le cancer. On n'a pas besoin de recherche oncologique. Donc, je suis volontairement ironique. Donc, évidemment, ce plan de licenciement, c'est un coût supplémentaire porté évidemment aux salariés, mais porté aussi à la recherche. Hein.
Oui, à la souveraineté de la recherche surtout, puisque, vous le disiez en introduction, pas de vaccin contre le Covid au moment où il en fallait un.
On n'a pas été capable, c'est pas on, c'est-à-dire que les multinationales qui sont installées aussi françaises n'ont pas été capables de trouver un vaccin contre le Covid. C'est le pays de Pasteur quand même, rappelons-le, la France. Mais pourquoi? Parce que en fait, ils considèrent le médicament évidemment comme un marché, un marché très lucratif et pas comme un bien commun. C'est ou quelque chose qu'il faudrait pointer comme étant d'intérêt général et donc de gérer de façon différente que les normes néolibérales et les normes du marché. On voit bien qu'on est très loin de ça. Hein. On est dans un, c'est non seulement mondialisé, mais en plus avec des disparités et des inégalités croissantes. Donc quand on empêche, quand on supprime la recherche, et il faut savoir qu'à Sanofi, il y a 40% des effectifs de la recherche qui ont été supprimés en 15 ans. C'est énorme. On est dans une situation où on marche sur la tête et où c'est l'intérêt, on va dire, commercial, c'est l'intérêt de faire de l'argent plutôt que de répondre aux besoins de la société qui est choisie par la direction.
Et pourtant, donc, Françoise, Sanofi est largement subventionnée quand même par l'État français, il me semble.
Eh ben, y a des subventions, il y a des. Puis ça rapporte beaucoup la vente de médicaments. Hein, ça rapporte énormément. Hein, on a quand même cette logique. Par exemple, il y a un médicament là, dont donne le nom, là, le Dubisinx, qui rapporte d'entre 10 et 12 milliards d'euros à Sanofi. Donc c'est un quart de son chiffre d'affaires. Donc c'est des choix. Les choix de recherche sont faits en fonction de ce que peut rapporter le médicament. Mais à contrario, tout le volet aux recherches et donc la prise de risque aussi et puis le temps long, ce n'est pas le choix de Sanofi, qui préfère sucrer dans les emplois dédiés à la recherche parce qu'elle estime que ce n'est pas assez rentable pour pouvoir continuer à faire le plus d'argent. Donc c'est très bien expliqué par les salariés, les représentants des salariés via leur syndicat dans les colonnes du journal, sachant que Sanofi a aussi est quand même aussi très très apte. Enfin, je veux dire, ils ont fait des démonstrations de la répression syndicale assez forte. Donc il faut saluer aussi le fait que ces salariés prennent la parole pour dénoncer ce qui est un gâchis et ce qu'ils appellent, eux, une spirale infernale et un opportunisme financier.
Affaire à suivre.
Complètement.
À Montpellier, le village de transition a réussi son pari. La Marseillaise revient sur ce projet qui était de proposer un toit à des familles.
Oui, alors c'est une expérience hein, positive, entre guillemets, qui vient de s'achever, mais qui est appelée à être reconduite. Donc, on rappelle que ce village de transition était situé dans le quartier de la Rose et qu'il a accueilli depuis avril 2022, donc ça fait 2 ans, 165 habitants. Donc il les a accueillis après le démantèlement du bidonville oui. de Celle-Neuve. Hein. Mmh. Et donc le 24 avril, là, il a été officiellement fermé. Et donc l'intérêt de cette expérience, c'est qu'il y a eu un travail entre les pouvoirs publics, la mairie, l'État et les associations qui ont été mandatées par donc la ville et la préfecture. Oui. Ils ont travaillé ensemble pour permettre aujourd'hui à 105 personnes d'être relogées de façon pérenne. Donc c'est une expérience très intéressante et qui a valeur d'exemple aussi pour d'autres cités. Je pense notamment à Marseille où il y a un projet aussi de village de transition, mais qui a beaucoup de mal à prendre parce que il y a beaucoup de préjugés sur le lieu. Il y avait eu aussi, ça n'a pas été simple à Montpellier non plus, mais le dialogue a fait que il y a pu avoir l'installation de ce village de transition qui permet aux personnes de se poser et de construire un parcours résidentiel pour pouvoir sortir de la vie dans les bidonvilles. Mmh. Mais bien évidemment, le travail n'est pas terminé puisque le préfet de l'Hérault, François Xavier Loche, hein, qui a donc participé à la fermeture officielle de ce village cette semaine, il a dit que l'État était prêt à continuer à travailler puisqu'il y a à peu près 600 personnes encore, c'est l'évaluation, qui vivent encore dans des bidonvilles à Montpellier.
C'est énorme.
Donc le travail n'est pas terminé, c'est encore énorme. Et puis on voit bien que il y a eu 2 ans d'ouverture de ce village, il y a eu la préparation avant, il y a eu les 2 ans d'accompagnement, il y a évidemment un bilan extrêmement positif et qu'il va falloir continuer. Hein. Mmh. Et donc, ce que je disais par rapport à la valeur exemplaire de l'expérience montpelliéraine, c'est que le maire Michael Delafosse raconte aussi dans nos colonnes qu'il continue à recevoir beaucoup de maires de toute la France pour voir comment ils ont fait. Et donc, il le dit lui-même, la méthode montpelliéraine est considérée comme exemplaire.
D'accord. Et
donc là aussi, à suivre, parce que c'est quelque chose de positif, sachant que le logement, c'est quand même quelque chose de fondamental et une des politiques publiques qui souffrent beaucoup. Et là, c'est un bel exemple.
Mmh, absolument. Allez, un petit peu de culture dans ce monde de brut, Françoise, avec Sète qui organise le premier festival de théâtre amateur.
Oui, tout à fait. Alors, cette l'île singulière, hein, donc elle enrichit encore son offre culturelle hein, avec un festival de théâtre amateur. Hein. Donc, la première édition va se dérouler du 3 au 5 mai. Mmh. Alors, c'est le comédien Christian Vadim qui va le parrainer. Et c'est le fruit d'un travail très volontariste de la part de la municipalité de Sète, puisqu'ils ont recensé en fait une vingtaine de troupes de théâtre amateur sur le bassin de Thau, ce qui est quand même intéressant. Et donc ce sont des troupes qui ont souvent besoin de lieux pour pouvoir jouer, proposer leur spectacle. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire ce festival. Alors, il y a eu une sélection hein, de troupes. Hein, il y a eu une sélection. Il y en a qui ont été retenus. Et donc, il va y avoir aussi un jury, puisqu'il va y avoir des prix. Hein, c'est
d'accord.
un vrai festival. Hein. Et ce qui est très intéressant aussi pour le public, c'est que c'est complètement gratuit.
Oui.
Et donc, ça, c'est l'accès à la culture qui
tous.
Est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'évidemment, en fonction de la limite des places, puisque tout va être joué sur la scène du conservatoire Manitas de Plata.
Oui.
Donc voilà, il y a une jauge sympathique, assez importante. Hein. Et donc on peut y aller en famille, découvrir ces spectacles très variés avec différentes générations. Ça montre la vitalité du théâtre amateur, hein, qui n'est un amateur évidemment au sens d'amoureux du théâtre. Ils sont souvent de très grande qualité.
Oui.
Et puis, justement, il y a une table ronde qui est organisée le 4 mai sur justement la pratique du théâtre amateur.
D'accord.
Voilà, donc tout est à retrouver, les dates, les lieux, dans la Marseillaise, et on invite vraiment le public à s'emparer de cette nouvelle proposition à 7, mmh. qui nous a habitués à quand même à une offre culturelle extrêmement riche, intéressante et accessible.
Et puis nous, à Divergence, on va encourager nos auditeurs à se rendre dans tous les bons kiosques pour se procurer cette nouvelle édition de la Marseillaise.
Bon, ça, c'est très sympathique.
Et à se rendre aussi sur le www.lamarseillaise.fr pour avoir
Absolument.
Plein de contenu. Merci, oui. chère Françoise. On se retrouve la
Merci
semaine prochaine.
Bonjour, à la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.